Donc voilà, vous êtes invité à poser des questions, si vous voulez des précisions. On a juste une petite chose, c'est qu'il y a une circulaire d'application hein, du dispositif sur l'OQTF qui date du 22 décembre 2006. Donc si vous voulez la récupérer, je crois qu'elle n'est pas, on ne vous l'a pas donné dans la note, mais on peut vous la faire passer si vous le souhaitez. Voilà. Elle doit être sur Internet. Enfin, j'en sais rien. Je ne crois pas parce qu'on a dû nous-mêmes la scanner, je crois.
Pas sur Internet.
Mais vous passez par une des associations ici présentes et elle vous la, voilà, on vous la donnera, quoi. Oui, monsieur.
Juste une précision. Si j'ai bien compris, s'il y a eu ordonnance de tri, c'est-à-dire qu'on écarte la première demande de recours, l'étranger a encore 15 jours, c'est magnifique, mais enfin, il a bien 15 jours pour faire un mémoire complémentaire. Non. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une ordonnance de tri qui fait qu'on n'examinera pas? C'est fini?
Si la requête a été jugée irrecevable, c'est ça?
On n'a pas compris le début de la question. C'est s'il y a une ordonnance de tri ou
oui.
S'il n'y a pas
d'ordonnance de tri.
C'est fini.
Il est informé qu'il y a eu une ordonnance de tri.
Bah oui.
Ça donne lieu à une décision qui s'appelle plutôt une ordonnance qu'un jugement. C'est pour ça qu'on parle d'ordonnance.
Et c'est terminé.
Oui.
Ça vous rejette. Les 15 jours, c'est s'il y a. On a toujours 15 jours. On a encore 15 jours pour faire du complémentaire.
Alors, cela dit, si dans son recours. Qui serait infondé et qui donnerait lieu à une ordonnance de tri, il a précisé qu'il allait envoyer un mémoire complémentaire, on doit lui laisser le temps.
Mais voilà, ça, c'est un élément très très important, hein, cette ordonnance de tri, parce que ça veut dire concrètement qu'un étranger qui a déposé une demande de titre de séjour rejetée par la préfecture, soit parce qu'elle n'avait pas toutes les informations dans le dossier, soit parce qu'elle a mal apprécié la situation, soit parce qu'elle a violé une disposition de la loi, enfin bon. Si l'étranger fait un recours devant le tribunal et qu'il y a une ordonnance de tri, ça veut dire que plus personne ne se prononcera sur le dossier. Ça veut dire qu'il n'y aura eu que la préfecture qui aura examiné le dossier et qui aura dit « je refuse » et ça s'arrête là. Hein.
Il n'y a plus rien à faire.
Non. Vous voyez le déséquilibre des parties parce que l'administration qui, elle, a les moyens peut faire une réponse stéréotypée, mais l'étranger qui est dépourvu, lui, doit faire un recours qui ressemble à quelque chose, un rapport avec le droit.
Et c'est un des écueils, parce que concrètement, si jamais les tribunaux administratifs se sont engorgés, eh ben, rien ne leur empêchera de gonfler ces ordonnances de tri pour...
C'est encore
une possibilité pour que...
C'est comme les portillons du métro, c'est portillon, on peut parvenir en arrière.
Je voulais juste finir sur ce point. Je vous rappelle que il peut y avoir une ordonnance de tri si le recours a été mal fait. Or, on a dit tout à l'heure que l'étranger disposait d'un mois pour faire son recours contre trois mesures distinctes. Hein, contre les trois mesures et en un mois, il doit avoir réussi à être suffisamment bon pour faire un recours qui tienne la route selon des formes très précises qui sont absolument impossibles à connaître quand on n'est pas juriste. Sachant que ça va être difficile en un mois de trouver un conseil, soit un avocat, soit une association, qui pourra l'aider dans le délai. Donc c'est un mois pour faire un recours parfait sur trois mesures. En fait,
oui. Nous, on a déjà mis, nous-mêmes, on a mis une semaine pour faire un modèle, vous voyez. Donc.
Les trois mesures, c'est le pays de destination.
Oui, c'est ça, c'est la première.
Le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et le pays de destination.
Oui.
Il y a une dérogation aussi au droit commun qu'on n'a pas évoquée, parce que c'est un dispositif complet. Hein. C'est que vous savez que normalement, quand on a une affaire, elle est jugée par trois juges, ce qu'on appelle enfin, trois juges, c'est le principe de la collégialité. Alors, dans notre hypothèse, quand il y aura un contentieux, et quand l'étranger sera en rétention administrative, et donc que sa requête sera jugée dans les 72 heures, dans ce cas-là, on écartera... comme par hasard, le principe de la collégialité, je m'arrête si je me trompe, hein. Et sa requête sera jugée par un juge unique, tout ça pour alléger la charge des juridictions administratives, parce qu'on considère que finalement, le contentieux des étrangers, c'est un sous-contentieux qui ne mérite pas, qu'on y attache beaucoup d'importance. Enfin, c'est ça l'esprit général. Quoi.
Oui. Un juge unique et en 72 heures. Il avait 3 mois pour juger si l'étranger était libre, ça passe à 72 heures, il est tout seul. Et ce que je vous rappelle, c'est qu'on a dit tout à l'heure que si l'étranger était arrêté dans une autre ville, enfin, autre que l'endroit où il avait déposé son recours, il y a un transfert du dossier entre le tribunal d'origine et le tribunal du lieu de rétention.
J'espère que ça mettra pas 72
heures. Le juge, tout seul, doit statuer en 72 heures sur un dossier qui doit lui être transmis par un autre tribunal, un dossier d'étranger, quand il y a de la matière, voilà, c'est comme ça de pièce. Hein. Donc je ne sais pas du tout comment ils vont transmettre le dossier. L'avocat, c'est pas du tout sûr que l'avocat de Paris ait envie ou ait la possibilité ou ait les moyens de se déplacer à Marseille si l'étranger est placé en rétention à Marseille, surtout si l'avocat est payé à de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire rien du tout. L'étranger ne pourra pas être assisté de sa famille au moment de l'audience. Et la dernière chose qui semble quand même aberrante, c'est que c'est le juge du lieu de rétention qui va statuer sur le dossier, ce qui veut dire que la préfecture a la possibilité de choisir le tribunal en choisissant le lieu de rétention. Il est gentil. Ah, celui-là, il me convient un petit peu mieux vu les décisions qu'il prend. Bah, je vais plutôt placer en rétention ici que là.
Marianne, tu voulais ajouter quelque chose ? D'autres questions.
Oui, on a parlé de la suppression, de l'APRS par voie postale, mais il y a son maintien en rétention lorsqu'il est donné de la main à la main.
Oui, bien sûr.
Il existe toujours.
Interpellation classique dans la rue pour quelqu'un qui n'a pas eu de refus de séjour.
Oui, s'il n'y a pas eu d'OQTR.
De refus de séjour.
Donc on aura toujours des recours à faire.
Absolument. Toujours. Oui, c'est très simple. Il y a quatre mesures d'éloignement maintenant au lieu de trois.
Voilà.
Donc si l'étranger est placé en rétention et qu'il n'avait pas eu de QTF, à ce moment-là, on peut faire le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière pendant qu'il est en rétention, comme ce qui est arrivé avant.
Avec un délai de 48 heures.
On a 48 heures pour faire le recours et le juge a 72 heures pour statuer. Donc ça, ça ne change pas. En revanche, si l'étranger avait eu une OQTF et qu'il a déjà fait son recours, on ne peut plus rien faire en rétention. Et si l'étranger avait eu une OQTF et qu'il n'a pas fait son recours, on ne peut plus rien faire en rétention. Donc il va y avoir beaucoup plus de situations dans lesquelles on ne pourra rien faire en rétention, alors qu'il n'y aura peut-être que la préfecture qui aura examiné le dossier. Parce que si l'intéressé fait son recours devant le juge, mais que c'est rejeté au tri, parce que ce n'est pas fait comme ça devrait l'être, on va avoir des personnes placées en rétention sans qu'un juge ait examiné le dossier. Il n'y aura que la préfecture qui se sera prononcée sur le dossier.
Pour revenir sur les ordonnances de tri, il faut savoir qu'il y avait un usage et une jurisprudence aussi qui était favorable aux particuliers. C'est-à-dire que lorsque ce sont des particuliers qui déposent des recours, le tribunal administratif les examinait avec bienveillance et était beaucoup moins rigoureux. Si c'était un professionnel, eh bien cette requête pouvait être déclarée irrecevable parce que manque de moyens, etc. Quand il s'agissait d'un particulier, il y avait une jurisprudence effectivement qui avait rattrapé un certain nombre de cas. Or, avec la nouvelle loi et décret, et je renvoie à l'explication tout à l'heure, eh bien, même pour les particuliers, ces ordonnances dites de tri s'appliqueront.
Moi, c'est une question sur la santé, enfin, les points de santé. Je suis la coordination 93 de lutte pour les sans-papiers. Et en même temps, je fais des permanences dans le cadre d'une droit de Pierre Fitte. Et je fais surtout des permanences santé. Donc, on connaît la logique actuelle, hein, qui est qu'effectivement, les décisions des inspections de la DAS ne sont plus de nature vraiment médicale, mais complètement politique. À savoir que tous les gens qui sont en situation régulière, tout en Seine-Saint-Denis, c'est complètement massif, réellement massif, qui étaient en situation régulière, même précaire, ne le sont plus depuis quelques mois. Les moyens que l'on a pour défendre ces gens-là, évidemment, ça les recours demande du temps, parce que ça demande quelquefois des enquêtes au pays d'origine par rapport à l'accessibilité aux soins. Et donc, ce sont d'ailleurs que les uns et les autres, enfin, on essaie d'avoir des réseaux dans les pays d'origine. Et là, on voit bien qu'avec le processus d'accélération, quand même, de l'obligation à quitter le territoire français, on va encore avoir moins de moyens pour défendre de manière très pertinente sur les véritables scandales que sont effectivement la limitation des titres de séjour aux soins. Je dis ça parce qu'on le dit sous forme de question pour savoir si justement sur les questions de régularisation pour maladie, il y avait une réflexion un peu spécifique ou des propositions spécifiques. Voilà.
Ce que je peux vous dire, c'est que le modèle qu'on a préparé, enfin, par la Ligue des droits de l'homme, nous sommes plus d'autres, et revu par les autres, c'est que le modèle concerne justement un refus de séjour qui, qui a un lien avec une pathologie. Hein? Mais après, il n'y a pas une réflexion spécifique. Il y a des collectifs spécifiques qui s'occupent de la santé, mais en lien avec la nouvelle mesure d'éloignement, ça ne me semble pas pour l'instant, mais peut-être que je me trompe. Il y a un moyen, effectivement, qu'il faut le droit à développer et sur lequel il faut sans doute réfléchir, mais vous trouverez des éléments dans le recours.
Enfin, ce que je veux dire, en gros, c'est une logique qui détruit les droits opposables. Quoi. On parle beaucoup de droits opposables en ce moment, une logique à rendre les droits le moins opposables possible.
Ah, donc c'est pas des droits quoi.
Ben voilà. C'est pas vraiment des sujets de droit non plus, quoi. C'est des étrangers.
Il y a eu un groupe de magistrats, un jury de magistrats administratifs pendant la discussion de la loi. J'ai pas totalement. Enfin sur le fond, c'était assez compliqué de comprendre exactement quels étaient dans le sujet des comportements. Est-ce qu'ils vont quand même, est-ce que ça va quand même dans votre sens? Est-ce que vous avez parlé avec eux? C'est pas quelle idée du dialogue que vous pouvez avoir avec eux? Voilà. Et est-ce qu'il y a un espoir éventuellement à fonder sur un mécontentement des magistrats qui finirait par poser problème pour les députés?
Des conseillers administratifs, hein,
oui, les conseillers de théâtre, il y avait une grève sur le unique.
Voilà, oui, il faut savoir qu'il y a 90%, je crois, des affaires qui, à l'heure actuelle et à l'avenir, vont passer à juge unique. Donc, effectivement, un syndicat s'est ému de cette situation, mais enfin, il n'est pas d'usage au sein des juridictions administratives pour les magistrats de faire grève. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une grève il y a quelques mois, enfin, c'est assez symbolique parce qu'ils étaient très peu représentés. Je ne sais pas si l'action chez eux se poursuit. Donc, ils vont plutôt devoir entériner.
Non, c'est la justice de bataille. La justice administrative est en train de se transformer de plus en plus en justice de bataille.
Il y a quand même une partie, moi je ne suis pas une spécialiste des syndicats dans les TA, mais il y a quand même certains syndicats qui se battent et qui dénoncent en fait ce qui est fait. Mais après, la résistance est difficile. Pour rebondir plus sur votre question, il y a eu des dénonciations aussi de leur part, une partie des syndicats. D'autres questions?
Vous pourriez repréciser ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que quand qu'on peut dire qu'il y aura un recours complémentaire éventuellement
avec un mémoire. Dans le recours, et je crois qu'il faut le dire à tous concernés par les recours possibles, il faut toujours penser à dire que l'intéressé va produire un mémoire complémentaire. Même s'il doit être produit dans les 15 jours, c'est toujours 15 jours de plus. Et pendant ce laps de temps, tant que le mémoire n'a pas été produit, le tribunal ne peut justement pas rendre ses ordonnances d'irrecevabilité. Donc c'est très important de l'annoncer, parce que si ce n'est pas annoncé et qu'effectivement un requérant n'a pas su rédiger, c'est clair qu'il va passer en ordonnance de tri. Si une association, quelqu'un pas très au fait, même chose. Donc autant l'annoncer, évidemment ça suppose d'être déjà conseillé, mais bon. En tout cas, sachez que ça ne mange pas de pain d'annoncer « je vais produire un mémoire complémentaire ». Dans ce mémoire, vous rajoutez après toutes les informations que vous pouvez, qu'elles soient des informations de fait ou juridiques.
Là, il y a un délai.
Par contre, il faut le faire.
Mais dans les 15 jours.
Dans les 15 jours.
Par contre, une fois que c'est annoncé, il faut le faire.
Oui,
parce
oui.
Que si
ah
jamais...
ben oui, bien sûr. Oui, c'est pour ça que je dis dans les 15 jours. Et le tribunal n'a pas obligation de vous le demander. D'accord. Si vous l'annoncez que vous ne faites pas, tant pis, le tribunal ne vous invitera pas à le produire.
Donc la même chose, hein. Si le mémoire complémentaire n'est pas produit dans les délais, ça s'arrête là.
C'est une autre illustration de ce que disait Nathalie, c'est-à-dire que vis-à-vis de l'administration, en revanche, on invite l'administration à produire ses défenses, et vis-à-vis du citoyen.
Je suis pas sûr d'avoir bien compris l'histoire des centres de rétention. Ça veut dire que si par exemple il y a un OQTF, qu'il y a un recours qui est déposé dans le délai d'un mois et qu'entre-temps l'étranger est placé en centre de rétention, toute la procédure finalement, refus, expulsion, etc., peut prendre moins d'un mois.
Le tribunal doit statuer en 72, dans le délai de 72.
Il peut, par exemple, expulser deux semaines après avoir été notifié de... L'OQTF ou pas ?
Il y a toujours ce délai d'un mois qui est le délai pendant lequel l'étranger est, entre guillemets, avec des gros guillemets, protégé. il a un mois pour faire le recours, le temps de ce délai d'un mois empêche l'administration de faire une expulsion. Par contre, à partir du moment où, on va dire, à un mois plus trois jours, il y a eu un dépôt il y a eu un recours qui a été déposé à 29 jours. Mais au bout d'un mois et trois jours, la personne se fait arrêter, placée en rétention. Ça ne sera plus trois mois de délai pour que le tribunal le statue, ça sera 72 heures. L'administration, la préfecture en l'occurrence, préviendra que cette personne a été mise en rétention. À partir de là, elle demandera au tribunal administratif compétent de statuer en 72 heures.
Donc, ce que vous précisez, monsieur, peut-être, c'est qu'on peut rester quand même jusqu'à 32 jours en rétention. Donc ça permet de...
Voilà.
En fait, il n'est pas sur place. Voilà, c'est pas un problème. On passera devant le juge des libertés qui dira oui, on prolonge et puis terminé.
Mais une fois que la décision, par exemple, d'expulsion a été prise par le juge, donc dans les 72 heures, donc il devra forcément rester en centre de rétention jusqu'à l'expiration des...
Il peut être expulsé dès qu'il y a un avion.
Une fois que la décision...
L'ensemble de la procédure prend moins d'un mois.
C'est ça, c'est ça. Oui. S'il y a un placement en rétention, même sur une OQTF, même sur une contestation d'OQTF, on revient, grosso modo, à ce qu'on connaît sur l'APRF. C'est-à-dire qu'on revient du coup à un délai de 72 heures avec une expulsion à 72 heures plus une heure.
Excusez-moi.
La décision est notifiée.
Il y a deux délais.
Voilà, je crois qu'il faut réexpliquer. Il y a plusieurs.
La décision est notifiée, d'accord ? Il a un mois pour partir. Donc pendant un mois, on ne le force pas à quitter le territoire. Dans ce délai d'un mois, il peut faire un recours. D'accord ?
C'est après que ça joue.
S'il fait son recours dans le délai d'un mois, passé un mois, on peut le mettre en centre de rétention. Et là, on bascule sur l'ancien système de la PRF, à savoir 72 heures pour le juger.
Il faut... Okay.
Non, puisqu'il a un mois pour partir librement. Donc à partir du moment où on lui notifie la décision, il a un mois pour quitter la France. Dans ce mois-là, il peut faire un recours.
C'est par rapport au délai de 3 mois que ça change.
Et quand bien même il a fait son recours, au bout du délai d'un mois, il peut être placé en centre de rétention. Ok ?
Je croyais que c'était dans le système actuel. Il reçoit une IQTF, une invitation à quitter le territoire, et donc pendant un mois, il est tranquille. Rien ne lui arrive.
Oui,
et au bout d'un mois...
Il est passible d'un APRF.
Il est passible d'un APRF. Ça, c'est la situation actuelle. Mais avec l'obligation de quitter le territoire, il peut, à ce moment-là, moi j'avais compris qu'il pouvait être mis en rétention...
Non, c'est un mois. Qu'il a un mois.
L'obligation remplace à la fois les deux étapes antérieures. Mais il y a toujours le délai d'un mois. C'est un mois et après, on est sur...
Si vous voulez, avant, on lui demande d'aller partir. Et après, il fallait réitérer une décision pour qu'elle soit exécutable. Le départ soit exécutable de manière forcée. D'accord ?
Il n'y a plus besoin de...
Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de la deuxième décision.
Il y a toujours un mois.
Vous voyez, même nous-mêmes, on n'est pas...
Non, les textes ne sont pas très clairs, mais c'est simplement, je crois qu'il faut retenir qu'il y a deux délais. Le délai du recours du justiciable et le délai du tribunal administratif pour statuer. Ce délai pour statuer, il vient presque forcément après le temps de recours laissé au justiciable. Donc après ce délai d'un mois... Le tribunal a trois mois encore pour juger, mais il n'est pas sanctionné s'il dépasse. Alors, on ne sait pas, on verra s'il le fait dans les trois mois ou pas, on ne peut pas vous le dire encore. Et il a ce délai de trois mois est ramené à 72 heures si l'intéressé est en centre de rétention, c'est tout.
Et ça peut encore s'améliorer. Hein. Après la présidentielle, on peut avoir une nouvelle loi qui supprime le délai d'un mois. Et il y a aussi autre chose qu'on peut faire, c'est faire créer des juges uniques dans les centres de rétention. Qui, à mon avis, est déjà dans les cartons, quelque part. On a déjà fait les tribunaux dans les centres de rétention.
Ça existe déjà dans les zones d'attente.
Voilà, dans les zones d'attente, on a déjà...
Je n'avais pas bien compris tout à l'heure votre exemple où vous parliez de cette famille qui était à Paris et qui était ensuite venue dans Seine-Saint-Denis.
Oui.
C'est-à-dire que quand on quitte un département et qu'on va dans un autre, on recommence.
Il fallait qu'elle aille, elle est allée à la préfecture de Vigny pour transfert du dossier.
Ouais, donc ça oblige en plus ces personnes à rester là où ils sont. On n'a pas le droit de bouger en France.
On a le droit, mais on prend des risques.
Ah ouais, c'est bien, on est repéré. D'un préfet
à l'autre, d'une préfecture à l'autre, Bobigny, c'est particulièrement humain, quoi. Chacun sait.
En fait, on a parlé beaucoup des refus de séjour. Il faut aussi, peut-être pas sur les retraits de titres, encore que ça soit multiplié au fur et à mesure des réformes, mais des non-renouvellements de titres. Oui, hein. Et là, on est par rapport au statut de travailleur temporaire, du travail. Il y y a un risque sérieux que le titre ne soit pas renouvelé, pas tant parce que le contrat a été rompu, mais simplement parce que le contrat de travail lui-même est un contrat à durée déterminée et qu'il est venu à expiration. Et donc, du coup, ça interroge la question du renouvellement. Et là, on aura, pas forcément au bout d'un an, mais de 2, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, les passages automatiques de la carte temporaire à la carte de résidence se sont réduits comme une peau de chagrin. Donc, le risque est assez important. Hein. Je dis ça parce que ça a un lien avec les moyens qu'on aura à construire. Parce que là, on a des allégations peut-être nouvelles au titre du travail à faire valoir, de contentieux prud'homaux en cours, ou je ne sais pas. Et du coup, ça nous demande aussi à nous à réfléchir à perspective par rapport à des situations qu'on connaît moins peut-être, des situations familiales ou de type respect de la vie privée. Peut-être qu'on aura d'autres situations à venir qui s'inscriront dans le dispositif.
Et donc tout ce qu'on vient de vous dire est valable pour la personne qui était en situation régulière depuis des années. Le cas typique, c'est effectivement la personne malade qui suit un traitement en France et un jour, on ne sait pas pourquoi, le médecin inspecteur de santé publique décide que tout d'un coup, on peut se faire soigner au Mali, ou que tout d'un coup, la personne est guérie, et on a un refus de renouvellement de type de séjour. Donc on perd tout, hein, le travail, le logement, etc. Et tout d'un coup, on a un document qui arrive à la maison, où il est écrit, on refuse de vous renouveler votre type de séjour, on prononce une OQTF et on vous dit que ce sera au Mali que vous allez être envoyé. Donc tout le processus qu'on vous a décrit est valable, y compris pour ces gens-là, qui ne s'attendent pas du tout à avoir un refus de séjour.
Travailleur jetable, malade jetable, immigration jetable, c'est cohérent. Ça s'appelle la rupture.
Ça prouve qu'on est en train de prendre des... On invite aussi à prendre, parce que c'est une hypothèse légale, des OQTF contre des ressortissants communautaires. Sans rentrer dans le détail, ressortissants communautaires, c'est l'ensemble des ressortissants qui relèvent d'un État membre de l'Union européenne tel qu'il existe aujourd'hui. Et donc on ne peut pas, en réalité, prendre des OQTF contre des ressortissants communautaires, y compris roumains et bulgares, dans la mesure où le droit communautaire limite les possibilités ou les restrictions au droit au séjour uniquement pour des raisons d'ordre public. Donc le fait d'être sans papier ou de ne pas répondre aux conditions n'est pas une raison d'ordre public au sens du droit communautaire. Donc le droit français n'est pas conforme au droit communautaire sur ce point.
Petite illustration, toujours la Seine-Saint-Denis. La veille de Noël, le 24 décembre, on a expulsé une mère de famille qui était séparée d'un enfant de moins de 6 mois en Roumanie. Il y avait encore quelques jours avant que la Roumanie nous rejoigne. Si jamais elle s'est pas fait. On a encore 8 jours de plaisir pour les chasseurs. Ce sera dans les comptes.
Oui,
ce sera dans les comptes 2006.
Oui, voilà.
Le chiffre de chasseurs.
Est-ce qu'on peut revenir à la situation qui pourrait exister, que vous avez expliqué, que le préfet pourrait ne pas prendre d'obligation de quitter le territoire, et qu'à ce moment-là, l'immigré qui a un refus de séjour se retrouverait dans le droit pénal. Ça risquerait la prison, etc.
Et en séjour irrégulier.
Au séjour irrégulier, c'est l'article 621-1 du CESEDA, j'ai révisé avant. Ce n'est pas le code par cœur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, parce qu'aujourd'hui, on a des hypothèses dans lesquelles on peut prendre toujours les APRF, les anciens modèles là, qui existent toujours, et donc des hypothèses légales dans lesquelles on peut prendre une obligation de quitter le territoire français. Et parmi ces hypothèses où on peut prendre des obligations de quitter le territoire français, il y a les refus de séjour, qui ne figurent pas parmi les catégories pour en faire l'objet donc d'un arrêté de reconduite à la frontière, ancien modèle. Donc partant de là, la voie administrative, est-ce que vous m'arrêtez si je me trompe, hein, ou si j'ai des bêtises, la voie administrative est bouchée, donc on ne peut plus prendre ni l'un ni l'autre, puisqu'on a choisi de ne pas le faire. L'administration pouvait le faire, elle ne le fait pas. Mais il n'empêche que la personne est en situation irrégulière et que ça constitue un délit que d'être en situation irrégulière en France, ça n'a pas changé. Donc le risque pénal existe. Alors après, on pourrait penser, c'est pas parce que l'administration a choisi de ne pas prendre une OQTF que le ministère public décidera de ne pas poursuivre. Hein. Ils sont parfois liés.
C'est une infraction continue.
Voilà. C'est pas une question de dossier. Je crois que au hasard des contrôles d'identité ou d'un quelconque délit commis par l'étranger, il pourra être également poursuivi pour ce délit qui est d'infraction à la législation des étrangers.
Avec l'intérêt que ça peut être lié avec une atterrissement du territoire français, et c'est tout bénéfique également pour l'administration.
Ça se fait bien pour le travail clandestin, parce que maintenant, quand on cherche le travail clandestin, c'est pas tellement les patrons.
Non.
S'il y a une obligation pour les territoires français, est-ce qu'il y a la possibilité de faire simultanément quand même un recours gracieux classique et le recours à l'obligation on peut le faire comme de manière simultanée.
Oui, mais hiérarchique, tactique. Stratégiquement,
c'est plus utile.
En pratique, si déjà on n'a pas le temps de faire
parce que la préfecture, la préfecture vient de prendre une décision. Si vous faites un recours gracieux, c'est à cette même préfecture que vous vous adressez.
Non,
vous
dites ça. La préfecture a mieux réfléchi, c'est qu'elle n'a pas décidé simplement de vous refuser le séjour. Elle a décidé déjà de vous éloigner potentiellement. Donc on peut penser que le recours.
Et on peut continuer à écrire depuis Bamako.
Oui, peut-être. Si une association a une influence sur la préfecture, elle peut également intervenir.
Bien sûr.
Les avocats étant très mal
vus. Il y a des associations aussi,
je pense qu'on le fera de manière automatique et systématique, les deux.
Et vous verrez qu'il y a un décalage entre la note pratique qu'on vous a remise, qui est provisoire, je pense qu'on la refera un peu plus tard. Il y a un décalage entre ce qui est dit dans la note pratique et ce que vous lirez dans la circulaire du 22 décembre 2006. Concernant le cas de personnes qui ont eu un refus de séjour avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif. Puisque nous prétendons que pour ces personnes qui ont eu un refus de séjour, c'est-à-dire tous ceux qui ont été déboutés de la circulaire que vous connaissez bien, enfants scolarisés, tous ceux qui ont eu un refus de séjour avant donc la date d'entrée en vigueur, nous prétendons qu'elles ne peuvent plus faire l'objet d'une mesure administrative d'éloignement. Pour une combinaison juridique dans laquelle je ne vais pas rentrer. Mais si vous lisez la circulaire dont je vous ai parlé tout à l'heure du 22 décembre 2006, ils disent strictement le contraire. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'attaquer cette circulaire. Mais il faut être vigilant en pratique parce que du coup, ça peut donner lieu à développement de ce moyen-là. Et donc d'essayer de se récupérer les moyens de recours développés dans notre recours à nous contre la circulaire, plutôt que de se référer évidemment à la circulaire. Je ne peux pas rentrer trop dans le détail du raison du comment, mais c'est assez compliqué parce que c'est une articulation entre plusieurs dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et du CDA. Voilà.
Mais c'est un petit peu expliqué dans la note.
Hein. Mais c'est expliqué dans la note.
Pourquoi l'administration ne pourrait plus prendre un APRR ? Contrairement à ce que le ministère demande aux préfectures.
Nous, on a commencé à avoir quelques premières obligations. Il n'y en a pas beaucoup en pratique. On n'a pas parlé de la pratique. Je sais qu'à la FACI, on a vu les premières UTF. Je ne sais pas si pour la Ligue des droits de l'homme, vous en avez vu.
J'en ai une à la prison de la santé. Ouais.
Et à la CI d'ici les Moulineaux, ils en ont vu une avec les voies de recours de la PRF. C'est-à-dire que l'administration a dû s'en mêler un peu les pinceaux. Quoi. Voilà.
Elle a fait un mauvais copier-coller.
La première obligation, c'était voilà. Avec le recours hiérarchique.
Mais là, avec les bons délais.
Non.
Bon, voilà. Donc,
ils sont comme un peu quoi, corrigés.
Cela dit, dans cette circulaire du 22 décembre, il y a un exemple d'OQTF. Ouais. C'est pas clair parce que. Il continue d'indiquer qu'on peut faire finalement dans le délai de 2 mois un recours gracieux et un recours hiérarchique, tout en disant le paragraphe suivant que pour que ce soit suspensif, il faut faire dans le délai d'un mois au tribunal administratif. Donc la première partie, il ne faut pas en tenir compte.
Ben, ce ne sera pas suspensif.
Voilà. Oui.
C'est comme les invitations, les convocations à la préfecture.
Oui, pour vérifier un petit détail dans le dossier.
Vous avez dit que les ressortissants européens ne pouvaient pas faire l'objet d'un OQTF. Mais j'ai entendu dire qu'ils pouvaient le.
Oui, c'est la loi dit qu'ils peuvent faire.
Ils peuvent pour absence de ressources, pour insuffisance de ressources.
Peu importe la raison pour laquelle, puisque la seule raison, au regard du droit communautaire, de porter des restrictions au séjour des communautaires, ce sont des raisons d'ordre public. Alors, sauf à faire la démonstration.
Et l'absence de ressources, c'est dans
le qui serait rejeté par le juge communautaire. De dire que l'insuffisance de ressources est une raison d'ordre public.
Il y a beaucoup de délinquants.
Ça serait un petit peu compliqué. Alors après, une fois qu'on a dit ça, encore faut-il le faire valoir. Donc il faut remonter tous les échelons pour réussir à le faire juger une fois pour toutes.
Et là, on peut contester la loi devant n'importe quel juge pour traduire un peu moins
la question que tous les juges.
Ah oui, bien sûr.
Faudrait. faudrait effectivement demander au juge, c'est très compliqué, il faudrait demander au juge administratif français d'interroger le juge communautaire sur la compatibilité entre le droit français et le droit communautaire. Alors que ça fait gagner du temps, mais c'est pas hyper léger comme dispositif.
On peut le faire sur
Mais c'est pas suspensif.
Entre temps, ils sont déjà assez loin.
Cette opposition justement de cette réforme avec le droit communautaire, est-ce que ça signifie que la France elle est à l'avant-garde du déni du droit des étrangers au niveau européen?
La France n'a jamais été un modèle de respect du droit communautaire. Et donc, voilà.
Elle continue. Et puis il y a un télescopage, parce que le droit communautaire n'avait évidemment pas été fait pour ça. Quoi. Il n'avait pas été fait...
Par contre, la France est en avant-garde pour faire en sorte que le droit communautaire se modifie.
Voilà.
Dans le bon sens pour eux, pour le mauvais sens pour nous. Là-dessus, ils sont très à la pointe.
On a fait la Convention européenne des droits de l'homme, on n'avait pas pensé que ces gens-là seraient aussi nombreux chez nous.
Voilà. Parfois, voilà. Il y a des avancées, comme la dispense de titres de séjour pour les communautaires, mais en réalité, c'est très difficile de vivre sans titre. Donc, ils demandent un titre quand même, d'un point de vue pratique.
Oui. Moi, c'est pour être sûr d'avoir bien compris. Si j'ai bien compris, toutes les familles... Qui ont demandé à être régularisés au titre de la CFPI et qui ont reçu un refus, il y en a qui n'ont rien reçu, mais celles qui ont reçu un refus, qui ont fait des recours hiérarchiques gracieux, et là, il y a eu un refus, soit le délai de 2 mois est passé, donc ça vaut refus, toutes ces familles-là peuvent recevoir maintenant une obligation de quitter le territoire.
Normalement, non.
Il faudrait que l'administration reprenne une décision, puisque la préfecture
aurait dû
prendre un arrêté de reconduite à la frontière après le refus de séjour.
Elle ne l'a pas fait.
Si elle ne l'a pas fait, elle ne peut plus prendre l'arrêté de reconduite à la frontière.
Mais en revanche, elle peut toujours réapprécier la situation et prendre
une OQTF. Alors, elle ne devrait pas reprendre une OQTF sur le même refus de séjour. Ça, c'est pas possible. Elle ne peut pas prendre l'OQTF seule, parce que l'OQTF, c'est forcément accompagné d'un refus de séjour. Donc la seule possibilité serait de reprendre un refus de séjour assorti d'une OQTF, ou de faire ce que le ministre préconise, c'est-à-dire de prendre quand même un APRF en violation de la loi. Ça nous semble illégal.
Puisque la PRF n'existe plus maintenant.
Oui, pas pour les refus de séjour.
Pas pour les refus de séjour, c'est ça.
Oui, il y a un effet balancier. Puisque maintenant, les gens qui ont eu un refus de séjour sont passibles de l'OQTF, ils ne peuvent plus l'aide de la PRF. Donc en fait, la réforme dont parlait Nathalie tout à l'heure, c'est qu'ils ont enlevé des gens passibles de la PRF, ceux qui, aujourd'hui, peuvent recevoir l'OQTF. Voilà. Notamment les gens qui ont demandé un titre et à qui on l'a refusé. Donc ce que dit notamment cette fameuse circulaire, c'est vous vous en fichez, vous trouvez ce qu'on appelle une autre base légale. Parce que juridiquement et légalement, ils ne peuvent plus faire l'objet d'un APRF, on contourne, ils sont certainement rentrés irrégulièrement, hop, on prend une autre base légale. On substitue.
On a toujours les interdictions du territoire français.
Le séjour irrégulier
au pénal.
Parce que moi j'ai commencé à avoir des familles, enfin pas des familles entières, mais certains ressortissants qui auraient relevé de la circulaire pour être parents d'enfants scolarisés qui sont déférés devant le tribunal correctionnel. Alors souvent, c'est vrai que traditionnellement, c'est l'hypothèse où on ne reprochait pas seulement le séjour irrégulier, mais une infraction connexe, usage de faux, des choses comme ça. Enfin, le séjour irrégulier en lui seul, c'est un début.
C'est-à-dire, on va avoir aussi des poursuites pour complicité de séjour irrégulier, pour aller sur la ville. Marseille, c'est déjà en route.
Ceux qui ont eu une QTF il y a 3 ans, qui n'a pas été suivi d'APRF, qui ne se sont pas fait piquer dans la rue, qui aujourd'hui se font arrêter dans la rue, qu'est-ce qui se passe?
Ils ont un APRF. Même s'il est... qui est notifié en main propre. Donc ça, ça existe toujours.
Placement en rétention.
D'accord, on ne reviendra pas sur le QTF pour faire une OQTF.
Non.
On est déjà à l'étape après.
Elle ne peut pas vivre toute seule, l'OQTF. Elle est forcément avec sa copine. Le refus de séjour, le refus de renouvellement ou le retrait.
Ce que dit la loi, c'est le refus de séjour est assorti d'une OQTF.
Depuis le 30 décembre.
Pas d'OQTF seul.
Quand il y a eu refus antérieur,
c'est... L'OQTF va s'appliquer à tous les refus de séjour depuis le 30 décembre 2006, date de parution du décret.
Vous voyez comme c'est simple, comme dispositif. Ça ressemble quand même à des personnes qui ont subi pas mal de réformes.